VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 27 mars 2023. Au Kenya, gaz lacrymogène contre une manifestation interdite à Nairobi. Un jeune homme est mort dans l'ouest du pays. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, en visite au Ghana, annonce une aide de 100 millions de dollars en soutien à 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans la partie magazine, nous reviendrons sur un don d'armement de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso qui fait des vagues.
Accepter, oui, mais accepter, mais aussi savoir quelles sont les conditions d'acceptation.
Reportage à suivre de notre correspondant à Ouagadougou. Des enquêteurs de l'ONU dénoncent l'esclavage sexuel des migrants en Libye. En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou accepte une pause dans la réforme de la justice. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Kenya, la police a tiré des gaz lacrymogènes à Nairobi contre le convoi du chef de l'opposition Raila Odinga. Il avait appelé ses partisans à manifester contre le gouvernement et l'inflation au lendemain de l'interdiction de tout rassemblement. Le point avec Nani Talani.
Il s'agit de la deuxième journée de rassemblement contre le président William Ruto à l'appel du chef de l'opposition Raila Odinga. Nous demandons la baisse du coût de la vie, du prix de la farine de maïs, du prix de l'essence, du prix du sucre et des frais de scolarité, a déclaré M. Odinga devant ses partisans dans le quartier populaire de Kwarangware avant que la police tire des gaz lacrymogènes et utilise des canons à eau pour que change son convoi de direction. À Kibera, le plus grand bidonville de la capitale, des protestataires ont brûlé des pneus et lancé des pierres sur les forces de l'ordre. Des unités anti-émeutes occupent les points stratégiques de Nairobi où de nombreux commerces sont restés fermés. À Kisumu, l'un des bastions de l'opposition dans l'ouest du pays, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène des pilleurs. Raila Odinga a maintenu hier, dimanche, son appel à manifester contre les effets de l'inflation tous les lundis et jeudis, peu après l'interdiction par la police de tout rassemblement ce lundi.
Et pour cette deuxième journée de manifestation, un homme a été tué par balle dans l'ouest du Kenya. La semaine dernière, lors de la première journée de mobilisation, un autre manifestant avait été tué par des tirs de la police à Maseno, près de Kisumu. Arrivé hier dimanche au Ghana pour un voyage d'une semaine en Afrique, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a rencontré aujourd'hui à Accra le président Nana Akufo-Addo. Les deux ont animé une conférence de presse conjointe. Yakuba Ouedraogo.
Les États-Unis vont fournir 100 millions de dollars au Ghana, au Bénin, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire et au Togo pour les aider à faire face à l'extrémisme violent et à l'instabilité. C'est ce qu'a déclaré la vice-présidente américaine Kamala Harris. Le président ghanéen a répété qu'il est préoccupé par la présence de Wagner en Afrique de l'Ouest et dit craindre que l'Afrique devienne le terrain de jeu d'un conflit entre grandes puissances. Selon le bureau de Mme Harris, les États-Unis vont fournir au Ghana 139 millions de dollars d'aide bilatérale l'année prochaine. Le Ghana est confronté à une crise économique avec une inflation de plus de 50% et une baisse de la monnaie locale, le cédi. L'année dernière, le Ghana a fait défaut sur la majeure partie de sa dette extérieure de 29 milliards de dollars à cause de la montée en flèche des paiements d'intérêts et l'inflation. La Chine est le principal créancier bilatéral du Ghana avec une dette d'environ 1,9 milliard de dollars. La vice-présidente américaine doit quitter le Ghana mercredi pour la Tanzanie et la Zambie.
La justice guinéenne a condamné aujourd'hui un gendarme à 10 ans de prison pour le meurtre d'un jeune homme dans un contexte de manifestation, une peine exceptionnelle contre un membre des forces de sécurité. L'adjudant-chef Moriba Camara était jugé pour la mort de Tierno Mamadou Diallo, 19 ans, atteint d'une balle dans la tête le 1er juin 2022 dans le quartier de Amdalaï, dans la banlieue de Conakry, où des jeunes manifestaient contre la hausse du prix du carburant. Les défenseurs des droits humains dénoncent de longue date l'usage excessif de la force par les gendarmes et les policiers et l'impunité dont ils jouissent, selon eux, dans un pays coutumier de violence politique. La junte qui a pris le pouvoir par la force en 2021 à Conakry a promis de rompre avec le passé. Le Burkina Faso a interrompu la diffusion de France 24 sur son territoire à la suite d'une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le gouvernement burkinabé se désole de voir que le chef d'une organisation terroriste puisse puisse bénéficier des largesses éditoriales de la chaîne. La direction de France 24 déplore cette décision. La junte au pouvoir à Ouaga avait déjà suspendu début décembre la diffusion de Radio France Internationale du même groupe que France 24. L'ONU s'est dit préoccupée par la détérioration de la situation des droits humains en Libye. Une mission de l'organisation vient de révéler que des migrants piégés en Libye sont réduits à l'esclavage sexuel. Alexandrine Olognon.
Des détentions arbitraires, des meurtres, des tortures, des viols et de l'esclavage sexuel. Ces pratiques sont largement répandues en Libye selon l'enquête de l'ONU. Les conclusions révèlent qu'il y a des raisons de croire qu'un large éventail de ces exactions ciblant des Libyens et des migrants sont commises par les forces de sécurité de l'État et les milices armées. Selon la mission qui dénonce un crime contre l'humanité, cette traite des êtres humains génère d'importants revenus pour des individus, des groupes et des institutions de l'État, ce qui incite à la poursuite des violations. Il est urgent de rendre des comptes pour mettre fin à cette impunité généralisée, a déclaré le président de la mission Mohamed Aoudjar dans un communiqué. La mission d'enquête de l'ONU a été établie en 2020 par le Conseil des droits de l'homme. Elle va partager ses informations avec la Cour pénale internationale, y compris la liste des individus qui pourraient être tenus pour responsables des exactions.
La Tunisie a appelé aujourd'hui l'Union européenne à montrer davantage de compréhension à son égard après que plusieurs dirigeants européens ont tiré la sonnette d'alarme sur la crise que traverse le pays et les risques qu'elle pose pour l'Europe. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait averti le 20 mars que la situation en Tunisie était très dangereuse, évoquant même un risque d'effondrement de l'État susceptible de provoquer des flux migratoires vers l'Union européenne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a reporté au mois prochain la poursuite des débats parlementaires sur sa réforme de la justice. La réforme du système judiciaire israélien portée par le premier ministre est vivement contestée avec de vastes manifestations à travers Israël et a provoqué des tensions au sein de la coalition gouvernementale. Le site internet de l'Assemblée nationale française est bloqué depuis ce matin par une attaque revendiquée par le groupe de hackers pro-russes Nonem en riposte au soutien de la France à l'Ukraine, ont indiqué des experts du groupe Thales. Les précisions de John Lydon.
Le site de l'Assemblée, qui renvoie vers une page fixe où il est indiqué « actuellement en maintenance », est la cible d'une attaque par déni de service. En d'autres termes, une saturation de requêtes menée par le collectif de hackers pro-russes Nonem057. Ce groupe de hackers a revendiqué l'attaque sur la chaîne Telegram en riposte au soutien de la France à l'Ukraine, a précisé Ivan Fontanareski, directeur technique de la cyberdéfense chez Thales. Nonem revendique aussi une attaque contre le site du Sénat, pour l'instant sans effet visible. Créé en 2022, Nonem est l'un des quelques 80 collectifs de hackers pro-russes qui s'en prennent aux institutions des pays qui soutiennent l'Ukraine, souligne un analyste. Les attaques par déni de service peu coûteuses n'entraînent généralement que des blocages temporaires des sites, mais elles peuvent handicaper des entreprises si elles sont liées à leur système de vente ou de production.
Toujours en France, à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, dont le président Emmanuel Macron dit assumer l'impopularité, la première ministre Elisabeth Borne multiplie les appels au dialogue. Elle a ouvert ce lundi 3 semaines de consultation avec les parlementaires, les partis politiques, les élus locaux et les partenaires sociaux s'ils le souhaitent. En Allemagne voisine, un mouvement de grève des transports d'ampleur rarissime a commencé aujourd'hui, touchant les aéroports, le rail, le fret maritime et les sociétés d'autoroutes. Ici aux États-Unis, 3 enfants et 3 adultes ont été tués ce lundi par une jeune femme qui a ouvert le feu dans une école primaire de Nashville, dans le sud du pays, avant d'être abattue par la police, armée au moins de 2 fusils d'assaut et 1 pistolet. Elle s'est introduite dans la matinée dans les locaux d'une école chrétienne privée, a expliqué le porte-parole local de la police locale lors d'une conférence de presse. La Maison-Blanche a réitéré son appel à interdire les fusils d'assaut combien d'autres enfants devront être tués avant que les républicains au Congrès adoptent une interdiction des fusils d'assaut, a réagi ce lundi la porte-parole de la Maison-Blanche. Cuba a renouvelé son Assemblée nationale avec la ratification par les électeurs de 470 candidats qui se présentaient pour le même nombre de sièges, a annoncé aujourd'hui l'autorité locale. La participation sur l'enjeu du scrutin législatif de dimanche a atteint 75,92%. Et puis en Afghanistan, au moins 10 civils ont été tués ce lundi lors d'un attentat suicide à Kaboul. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
N'Djamena a nationalisé les permis d'hydrocarbures et les autorisations d'exploration et de production qui appartenaient à une filiale d'ExxonMobil, a déclaré le ministère tchadien de l'énergie et des hydrocarbures. Exxon a conclu la vente de ses activités au Tchad et au Cameroun avec Savannah Energy, cotée à Londres, pour 407 millions de dollars. Le Tchad conteste l'achat et avertit qu'il pourrait demander aux tribunaux de le bloquer et de prendre des mesures pour protéger ses intérêts. En Mauritanie, l'inflation a ralenti à 10,3% en janvier en réponse au resserrement de la politique monétaire de sa banque centrale, soutient le FMI. L'inflation pourrait être réduite en maintenant une politique monétaire restrictive. Le FMI encourage aussi la mise en œuvre des réformes structurelles, y compris l'amélioration de la gouvernance et l'atténuation des défis posés par le changement climatique. Terminons par le FMI qui appelle les créanciers à soutenir les efforts du Ghana pour rétablir la viabilité de la dette, à former un comité officiel des créanciers et à fournir les assurances de financement nécessaires dès que possible. En attendant, le FMI travaille en étroite collaboration avec Accra sur un accord de prêt de 3 milliards de dollars sur 3 ans, conclu en décembre.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les matchs de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent ce lundi.
La République centrafricaine s'est relancée grâce à sa victoire face à Madagascar 2-0. Avec 7 points, les fauves du Bazoubangui occupent la deuxième place du groupe E devant l'Angola qui a fait match nul 1-1 avec le leader, le Ghana, 8 points. Dans le groupe F, l'Algérie a arraché sa qualification pour cette CAN 2023 grâce à sa victoire 1-0 face au Niger. Dans le groupe G, le Congo a battu le Soudan du Sud 1-0 pour se positionner deuxième devant la Gambie qui fait face demain au Mali. Dans la poule A, le Nigeria reprend la tête du groupe après sa victoire 1-0 devant la Guinée-Bissau. À suivre aussi ce soir, Soudan, Ghana et Éthiopie-Guinée. Hier, dans la poule H, la Zambie a viré en tête après son succès 2-0 au Lesotho. L'équipe Polo Polo compte 9 points, 2 de plus que la Côte d'Ivoire qui joue demain mardi aux Comores. Victoire 2-0 en déplacement aussi de la Sierra Leone sur le terrain de Sao Tomé. Les Lone Stars sont classés 3e du groupe A avec 5 points.
Déjà qualifié pour cette CAN, le Maroc affrontait le Brésil en match amical.
Tout à fait, un match de gala pour les Lions de l'Atlas après leur formidable parcours à la dernière Coupe du Monde. Le Maroc s'est imposé 2-1 devant la Seleção à Tanger. Une victoire du prestige, la toute première en 3 confrontations entre les deux pays, d'où la satisfaction du capitaine des Lions de l'Atlas, Romain Saïs.
C'était magnifique de pouvoir célébrer le parcours qu'on a fait à la Coupe du Monde chez nous, enfin. Et donc pour que la fête soit belle, il fallait remporter ce match, c'est ce qu'on a fait.
Le défenseur et capitaine du Maroc, Romain Saïs, au micro de notre correspondant à Casablanca, Amine Birouk. Prochain match amical pour le Maroc, demain mardi, à Madrid, contre le Pérou.
Basketball à présent avec les résultats de la nuit dernière en NBA.
Les Lakers ont été vaincus malgré le retour de LeBron James. Golden State et Dallas sont tombés. Le point avec Bagasikoura.
Malgré la présence de LeBron James, de retour de blessure, les Lakers se sont inclinés 108-118 à Chicago. King James a joué 30 minutes en sortie de banc. Il a empilé 19 points et 8 rebonds pour le deuxième match de sa carrière en tant que remplaçant. En 20 saisons de la Ligue, les Lakers tombent au 9e rang dans la conférence Ouest, juste devant le Thunder d'Oklahoma City, qui s'est imposé contre Portland 112-118. De leur côté, les Bulls confirment leur 10e place à l'Est, derrière Toronto, vainqueur 114-104 de Washington. Golden State a perdu face aux Timberwolves 96-99. À Atlanta, les Hawks se sont inclinés 119-123 devant Memphis. Dallas a perdu contre Charlotte 110 à 104. Cleveland a dominé Houston 108 à 91 et composté son billet pour les playoffs, une première depuis 2018. Boston a lui corrigé San Antonio 137 à 93.
Merci Bagassi.
Page de sport VO Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, le procès entre le ministre Mam Mbaye Niang et l'opposant Ousmane Sonko avait embrasé la capitale et causé des casses le 16 mars dernier. Finalement renvoyé par le juge, l'audience est de nouveau programmée pour ce jeudi 30 mars. Certains Sénégalais se projettent d'ailleurs avec beaucoup d'inquiétude sur cette date où Ousmane Sonko sera de nouveau devant la justice. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Une marche nationale et des manifestations dans les 46 départements du Sénégal, tel est le plan d'action prévu par la coalition d'opposition Yewi Askanoui en marge du procès entre Ousmane Sonko et le ministre Mbaye Niang qui accuse l'opposant de diffamation. La nouvelle programmation de l'audience pour ce 30 mars inquiète fortement les Sénégalais comme Pape Diarra, commerçant.
Nous les commerçants, nous sommes très fatigués par cette situation qui est très difficile. Nous sommes restés une semaine avec nos affaires au plus bas. La date du 30 mars aussi nous fait peur parce qu'on se dit que ça peut dégénérer facilement. Nous demandons à tous de garder leur sang-froid parce que si le pays brûle, on y perd tous. Nous gagnons notre vie au jour le jour. Donc si ça dégénère, nous serons dans de beaux
draps. Si ça dégénère, ce sera une situation désastreuse causée par des manifestations uniquement politiques qui impactent fortement et négativement les Sénégalais, d'après Augustin Furtado.
Les Sénégalais ont le droit de résister parce que c'est un droit constitutionnel. Et actuellement au Sénégal, nous assistons à un recul démocratique et ce depuis l'accession du président Macky Sall au sein de... Même si l'État parvient à sortir énormément de policiers dans la rue, les Sénégalais actuellement sont engagés à mobiliser pour lutter pour la démocratie et pour l'émergence de ce pays.
Pour Omar Barry, le mieux est que tous les protagonistes sachent raison garder.
On n'a pas eu de dégâts, mais il y a eu des gens qui sont venus ici brûler deux pneus. Mais heureusement, il n'y a pas eu trop de dommages. Mais de plus en plus, on va vers une situation qui va causer des dommages à plus d'un. Donc, il est temps que l'État et les opposants se parlent pour apaiser la situation. Car si on regarde de très près, les politiciens sont moins nombreux, mais causent beaucoup de dommages à la communauté.
Des manifestations violentes, des dégâts importants et une forte tension sont souvent de mise lors des récentes convocations de Ousmane Sonko devant la justice. Si l'opposant accuse l'État de persécution, les membres du parti au pouvoir estiment que force restera à la loi. Pour beaucoup de Sénégalais, le plus important est de préserver la paix sociale. Seydina Abagay, VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, le don d'armes de la Côte d'Ivoire continue de susciter la polémique. Le porte-parole du gouvernement ivoirien avait reconnu ce don et la semaine dernière, en déplacement à Kaya, dans le centre-nord du pays, le capitaine Ibrahim Traoré a reconnu que la Côte d'Ivoire a soutenu le Burkina en équipement militaire pour des opérations à la frontière de Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
L'information de ce don de matériel a d'abord été révélée par la radio locale Omega. Elle a été vivement contestée par les partisans du pouvoir estimant que la Côte d'Ivoire n'est pas sincère au regard de son rapprochement avec la France. Mais plus tard, les deux pays confirment ce don de matériel militaire. Dans les rues de Ouagadougou, certains continuent de faire preuve de scepticisme.
Toute aide, en fait, qui peut venir et aider à limiter les casses de cette crise-là, elle est bienvenue. Maintenant, il y a un autre proverbe aussi qui dit que ventre vide n'a point d'oreille. Donc accepter, oui, mais accepter, mais aussi savoir quelles sont les conditions d'acceptation. Si c'est vraiment altruiste, un don, tout aide est la bienvenue, franchement, pour régler ce conflit-là.
La question que je me pose, pourquoi maintenant? Pourquoi depuis le début de cette lutte contre le terrorisme, ça fait à peu près 7 ans ou plus. Pourquoi maintenant, alors qu'on sait bien que la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus proche du Burkina. Voilà. On partage beaucoup de choses ensemble. Voilà. Nos deux cultures se ressemblent. On partage même des langues. Voilà. Pourquoi maintenant?
Adama Bayala est analyste politique.
C'est un apport non moins négligent, significatif, qui atteste, qui dénote d'un changement de paradigme de la Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire que cela témoigne du réchauffement du climat des relations entre ces deux pays, encore qu'on regarde dans un passé récent. Il surfait, il planait un parfum de suspicion entre ces deux États. Recevoir ce matériel, ces équipements militaires, c'est un bon signe. Mais je dois dire, selon certaines zones de secret, c'est un armement, un équipement qui avait été mégoté, négocié du temps d'Amiba et donc est bénéficiaire aujourd'hui le MPSR 2. Il est donc de bon droit et de bon aloi que le MPSR 2, de mon point de vue, poursuivre la dynamique et continuer à tricoter le coton de la concorde, de l'amour, de la fraternité avec la Côte d'Ivoire pour éventuellement, lui aussi, MPSR 2, bénéficier de nouvelles aides de la Côte d'Ivoire.
La semaine dernière, la télévision nationale et l'agence d'information du Burkina ont annoncé la mort de plusieurs dizaines de terroristes. Un succès sur le terrain que les partisans du pouvoir voient comme la preuve d'une montée en puissance de l'armée qui a présenté dernièrement de nouveaux équipements, des vecteurs aériens de pointe. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
De puissantes tornades ont ravagé des régions rurales du sud des États-Unis, faisant près de 30 morts au cours du week-end. Des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité et d'eau courante. Le président Joe Biden a déclaré la zone sinistrée, ouvrant la voie à l'aide fédérale. Le point avec Arash Arabasadi de la VOA, le récit Michel Joseph.
Une vidéo de surveillance du lycée Armory dans l'État du Mississippi montre le moment où la tornade a traversé cette ville proche de la frontière avec l'Alabama. Une violente tempête s'est abattue sur les deux États du Sud dans la nuit de vendredi à samedi. Près de 30 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont portées disparues. Parmi les zones les plus touchées figure la communauté rurale de Rolling Fork dans le Mississippi, où environ un cinquième de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Environ un tiers des habitants vivent dans des maisons mobiles mal équipées. Selon le Service météo national, plus de la moitié des décès liés aux tornades surviennent dans des habitations mobiles. Dans son discours dimanche depuis la cité du Vatican, le pape François a appelé à prier pour les victimes. Le président Joe Biden a déclaré un état de catastrophe majeure dans le Mississippi et a ordonné l'octroi d'une aide fédérale. L'Agence fédérale de gestion des urgences, ou FEMA, va superviser les efforts de reconstruction. Diane Criswell, administratrice de l'agence FEMA.
La plus grande priorité pour moi est de m'assurer que les autorités locales, les premiers intervenants, disposent de toutes les ressources dont elle a besoin. Ensuite, nous devons commencer à nous occuper des familles. Je sais que la Croix-Rouge américaine est sur le terrain et qu'elle met en place des abris temporaires. Nous savons que des familles ont tout perdu et nous devons travailler avec elles dès maintenant pour trouver une solution d'hébergement provisoire. Ensuite, comment les aider à plus long terme pendant qu'elles reconstruisent leur maison.
Le service météorologique a indiqué que la tornade a généré des vents d'une vitesse entre 265 km/h et plus de 320 km/h. Selon l'agence, une tornade de catégorie EF1 est suffisamment puissante pour raser une habitation mobile avec des vitesses de vent deux fois inférieures à celle de la tornade qui s'est abattue sur le Mississippi. Les autorités ont mis en place des abris d'urgence et des centaines de lits pour les habitants, dont beaucoup n'ont plus grand-chose. Dimanche matin, des dizaines de milliers d'habitants étaient toujours privés d'électricité et d'eau courante, alors que la tempête traversait la Géorgie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le président russe Vladimir Poutine a annoncé son intention de stationner des armes nucléaires en Biélorussie. Veronica Balderas Iglesias explique comment les armes utilisées par la Russie en Ukraine ont eu de lourdes conséquences sur la population civile et sur l'environnement. Récit John Lindon.
À la frontière avec la Biélorussie, les soldats ukrainiens utilisent depuis plusieurs mois des drones pour surveiller toute offensive potentielle. Samedi, on a appris que le président russe Vladimir Poutine envisageait de stationner des armes nucléaires tactiques en Biélorussie.
Je veux le souligner, ne violant pas ses obligations.
Je voulais insister sur ce point, sans violer nos obligations internationales en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Le 3 avril, nous allons former les équipes. Et le 1er juillet, nous achèverons la construction de notre pôle spécial pour ces armes tactiques sur le territoire biélorusse.
L'annonce de M. Poutine est intervenue après que la Grande-Bretagne a confirmé qu'elle fournirait à l'Ukraine des obus performants contenant de l'uranium appauvri. Igor Kirillov, chef de la force de protection radiologique, chimique et biologique de l'armée russe, a mis en garde contre les possibles risques.
Outre la contamination de sa propre population, cela causera également des dommages économiques colossaux au secteur agricole de l'Ukraine, principalement en ce qui concerne les cultures et l'élevage.
Le ministère britannique de la Défense a réaffirmé sa décision, expliquant que le risque de radioaction était faible et l'OTAN a qualifié la rhétorique nucléaire de Poutine de dangereuse et irresponsable, selon l'agence de presse Reuters. L'invasion russe a déjà gravement endommagé l'environnement en Ukraine, a déclaré Ruslan Strelet, ministre ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles.
Nous avons recensé plus de 2300 cas de crimes contre l'environnement en Ukraine. Le montant total des dommages s'élève à plus de 51 milliards de dollars américains.
Son ministre déclare qu'il demandera des réparations à la Russie.
L'impact le plus important est la pollution de l'air. Plus d'un tiers des forêts ukrainiennes ont été détruites.
Au cours du week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à son peuple que les criminels de guerre russes auraient à répondre de leurs actes. On s'attend à ce que le dirigeant ukrainien se joigne au secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour une table ronde intitulée « Une paix juste et durable en Ukraine ». Ce sera lors du deuxième sommet pour la démocratie qui doit s'ouvrir demain à Washington.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, retour sur la formation d'un nouveau gouvernement en RDC à 9 mois de la présidentielle. Cette équipe est marquée par l'entrée de deux poids lourds de la politique congolaise, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba, qui occupent respectivement les postes stratégiques de l'économie et de la défense. Ceci alors que le contexte préélectoral est marqué par une relance du débat sur la congolité. Quelle lecture faire de la mise en place de ce nouveau gouvernement? Où en est le processus électoral? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.